Arcania, Haute-Turmain.
Jacques Lavergne.
Bonjour. Bonjour. Arcania, l'émission résiliente. La chose importante à garder en tête est qu'il ne faut jamais attendre une minute pour commencer à changer le monde. Extrait du journal d'Anne Frank.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Allez, tiens, on commence par une citation, c'est habituel. Nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Donc c'est un peu du vieux français. Le subjonctif est un peu mis entre parenthèses. C'est de Pascal et c'est dans les pensées. Et ça pourrait tout à fait s'appliquer aux problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà, Arcania démarre. Alors, le feuilleton que l'on va, que je vais vous narrer dans quelques instants. Quelques brèves en deux salves, vous verrez ça. Une invitée, Tassadite Bonardeau. Bonjour Tassadite.
Bonjour.
Et pour finir, les habituels conseils culturels. Voilà, c'est parti, c'est Arcania et nous démarrons. Alors on va commencer par ce que j'appelle le feuilleton. C'est un livre que j'aime bien. Ça s'appelle Un pouvoir implacable et doux, de Philippe Delmas chez Fayard. Je ne sais pas si vous le connaissez, Tassadite.
Pas du tout.
Pas du tout, voilà. C'est un livre qui veut apporter une réponse très simple. La révolution industrielle nous a apporté la richesse et la démocratie. Que nous apporte la révolution numérique? C'est la question que pose Philippe Delmas. Et Philippe Delmas nous dit, pas autant de bienfaits que les créateurs numériques nous l'annoncent, puisqu'en dehors des formidables avancées de communication et d'industrialisation, c'est très difficile à dire, mondialisée qu'elle permet, elle est aussi surtout un vecteur d'inégalités et qui n'ont jusqu'à présent vraiment jamais été révélées ni abordées. Alors Philippe Delmas dirige une société en conseil de stratégie industrielle et puis il a été dirigeant d'Astrium, d'Airbus, il est passé au Quai d'Orsay où il a développé les questions de technologie. Son livre est absolument passionnant, je n'avais jamais lu sous la plume de quelqu'un d'autre ce type de choses, donc c'est pour ça que j'aime bien en parler, donc j'ai appelé ça le feuilleton. Alors je donne quelques grandes lignes de certains chapitres. Alors nous avons commencé la semaine dernière, nous étions au chapitre 3, donc Aude, je vous pose la question, qu'est-ce qui arrive maintenant?
Je l'attends.
Le chapitre 4, vous l'avez trouvé, bravo.
Merci.
Alors que nous dit Philippe Delmas? Philippe Delmas nous dit l'ATEC, qu'il appelle l'ATEC, hein, vous savez ce que c'est, réduit l'avantage d'une main-d'œuvre bon marché, puisque aujourd'hui on assiste beaucoup à du rapatriement d'entreprises, on développe des robots. Donc il va falloir se poser la question de savoir qui fabrique les robots et qui les possède. Les Allemands, pour ça, ils ne sont pas mauvais du tout. Et tout cela va rendre plus difficile le décollage des pays en développement. Leurs concurrents ne seront plus les salariés à bas coût, ce qu'on voyait quand on allait au début en Chine. Maintenant, c'est plus tout à fait vrai. Mais ce seront des robots qui, eux, n'ont pas vraiment d'état d'âme. Et donc, ça va amplifier le phénomène général de désindustrialisation, et même d'ailleurs dans les pays développés. Mais pour eux, cette évolution est finalement liée à la maturité de leurs économies, puisque aujourd'hui, il y a surtout une prééminence de services. Mais dans les services, la capacité de ceux-ci à créer, à diffuser de la richesse est quand même bien moindre que dans l'industrie. Alors si on prend par exemple l'Inde, vous avez dit l'Inde était très fort, très en pointe dans ce qui concernait l'informatique. Eh bien aujourd'hui, l'Occident rapatrie les activités sophistiquées, donc tout ce qui touche à l'informatique, qui deviennent plus rentables chez eux parce qu'il y a la combinaison à la fois des logiciels et d'une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, mais peu nombreuse. Donc l'Inde, qui fut un moment notre réservoir de fabricants d'informatique, de logiciels, et qui étaient vraiment très en pointe, risquent un peu de souffrir. Ils n'avaient pas tout à fait besoin de ça. Ils ont déjà M. Modi, ça suffit. Alors la tech, c'est un peu l'assurance du sous-développement aujourd'hui, parce que cette logique des vainqueurs que Philippe Delmas abordait dans les premiers chapitres, dont je vous ai rendu compte il y a 15 jours, cette logique des vainqueurs s'étend aussi au pays. Les techs se diffusent de plus en plus vite, mais le rythme de pénétration de ces techniques, de ces technologies, diffère entre les pays. Ça ne va pas du tout à la même allure. Or, c'est la modernisation d'ensemble d'un pays et est le seul qui fait la compétitivité de ce pays. Si c'est diffusé très ponctuellement dans quelques villes, et on pourrait citer des exemples, ça ne fonctionne pas. Lorsque la diffusion est profonde, eh bien là, les bénéfices sont là, mais diffusion profonde, ça n'existe pas partout, surtout dans les pays en sous-développement. Enfin, en sous-développement, mais non, on dit en voie de développement. Le rythme de pénétration de ces techniques sont de plus en plus divergents. Et donc, la relation entre pénétration des techniques et la croissance du revenu par tête est évidente. Plus le revenu par tête est élevé, plus la diffusion des techniques est rapide et profonde. Et malheureusement, on constate qu'à part en Occident, pour le reste de la planète, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Donc, il y a un accroissement du fossé. Et on constate que la part du travail dans le PIB baisse. Et le bénéfice des progrès techniques dépend de plus en plus de ce qui a déjà été accumulé. Donc, c'est près de corrige, disait-on, là, ce sera un peu pareil. Ça veut dire que les machines intelligentes pourraient signifier, c'est paradoxal, mais la misère généralisée pour certains. Donc, on va moderniser la misère, hein, parce qu'elle n'est plus ce qu'elle était, on la modernise, mais on ne va pas accroître le développement. Et la croissance des économies émergentes, elle est réelle, bien sûr, mais ce qui ne l'est pas, c'est la réduction de l'écart entre ces pays, ces économies émergentes et les économies des pays les plus avancés. On n'arrive pas à réduire. Donc la probabilité pour un pays de rester à son niveau de richesse actuel est de plus en plus forte. Et en 30 ans, la possibilité de sortir du groupe des pauvres a baissé de moitié. Celle de devenir riche quand on est moyen aussi. Donc, pire, on envisage aujourd'hui la possibilité d'une régression. Et alors, nous dit Philippe Delmas, cette régression va s'étendre même aux systèmes politiques qui sont impactés par ces phénomènes. Et ça va avoir des effets ravageurs pour la démocratie des pays en développement. Ça va avoir des conséquences politiques très importantes. L'enjeu, c'est la capacité de ces pays à assurer leur avenir. Et peut-être le nôtre aussi, hein, il ne faut pas rêver. L'uniformisation du monde des techniques, du juridique, fait que l'accumulation de la tech est une condition impérative de la modernité. La mondialisation enlève aux pays, pour beaucoup, la liberté de s'organiser en fonction de leurs exigences propres. Hein, parce qu'on dit le président de la République en France, il a tous les pouvoirs. Enfin bon, on sait quand même que tout cela est extrêmement limité si on veut bien regarder ce qui se passe ailleurs. Nous avons un avenir qui peut-être va être bousculé par la tech. Donc ce qui était fait pour nous rendre une vie meilleure, plus agréable, risque de nous poser d'énormes problèmes. L'opinion publique des pays riches a le sentiment de ne plus être maître de rien, ce qui permet que certains, donc on ne va pas nommer, mais prospèrent là-dessus en disant on n'est plus chez nous, regardez, on est manipulé, etc. C'est pas vrai dans les pays riches parce qu'ils vont quand même rester maîtres de leur destin. Par contre, les pays en voie de développement, eux, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ils n'arrivent plus à rattraper le retard, je l'ai dit, et ils ont de moins en moins de chances aujourd'hui de le faire. Donc l'augmentation de la richesse par tête, on le sait, favorise la démocratie, mais l'inverse n'est pas vrai. La démocratie n'est pas un facteur en soi de développement, il faut le savoir. Et le malheur, c'est qu'Internet aujourd'hui permet à chacun, même dans ces pays en voie de développement, même au fin fond d'Afrique, de se situer par rapport aux autres et de voir quelles sont ses conditions de vie réelles et quelles sont celles des autres. Donc, ça peut en agacer certains, c'est un euphémisme, bien sûr. Donc on assiste quand même à un recul de la démocratie et la stabilité politique est extrêmement bousculée, surtout dans les pays pauvres. Mais ça va nous arriver, hein, ça commence par là, mais je pense qu'on pourrait être gangréné. La démocratie s'est construite, nous dit Philippe Delmas, sur la liberté de penser et de croire. Or, la moitié des pays du monde ont une législation contre le blasphème ou la diffamation de la religion. Et leur nombre ne cesse de croître en 10 ans. Et dans cette dynamique, la tech a un rôle central. Ça se diffuse plus lentement, la désindustrialisation précoce qu'elle induit contribue fortement à la stagnation relative des pays en développement et donc à leur déstabilisation politique. Donc vous voyez qu'à partir de là, on peut peut-être expliquer beaucoup de mouvements sociaux, politiques, économiques qui se passent dans certains pays. Mais je crois qu'il ne faut pas ne parler que des pays en développement. on est également touché. Donc voilà, c'était dans 15 jours, je vous parlerai d'autres chapitres de ce pouvoir implacable et doux, encore une fois, de Philippe Delmas, chez Fayard, dont je ne saurais trop vous recommander la lecture. Tassali Bonardo, si vous voulez commenter, libre à vous, non, c'est...
Oh, c'est gay comme introduction.
Ah ben, on n'a rien à dire de gay. Tout à l'heure, je parlais avec des journalistes de France Bleu et je leur disais, nous allons démarrer l'émission Arcania sur le développement et nos auditeurs, normalement, devraient tous se suicider à la fin de l'émission. Non, ce n'est pas ce qu'on leur souhaite, mais je pense qu'ouvrir les yeux, c'est aussi une manière peut-être de commencer à combattre certaines tendances qui nous amènent dans l'impasse. Quelques brèves, oui. Peut-être, quelques brèves. Ben, je vais commencer, tiens, je vais vous donner la première brève. Alors moi, je vais vous parler, c'est très difficile à dire, de la Tabasca. La Tabasca, ça se situe dans l'Alberta. Et dans l'Alberta, des sites comme la Tabasca, il y en a énormément. Ce sont des sites qui sont dévastés par l'exploitation des cibles bitumineux. Alors, je précise quand même que l'Alberta, c'est au Canada, pour ceux qui auraient quelques faiblesses en géographie. Donc, exploitation des sables bitumineux. Alors, on sait comment ça marche. C'est la manière la plus polluante de produire du pétrole, puisque lorsque vous produisez des sables bitumineux, bah, vous balancez 73 kg de CO2 par baril. Donc, c'est tout à fait considérable. C'est extrêmement dévastateur des paysages. Vous savez comment on fait ? On injecte de l'eau chaude dans les puits pour liquéfier la matière, puis on stocke cette eau bourrée de produits chimiques dans d'immenses bassins de décantation. Vous voyez la soupe que ça peut donner. Donc, l'Alberta recèle quand même dans son sous-sol l'équivalent de 170 milliards de barils. Ce qui n'est pas rien. Alors, ce n'est pas l'Arabie Saoudite ou le Venezuela ou l'Iran, mais quand même, c'est déjà pas mal. Et les Canadiens, bah, ils jouent le jeu de l'extraction totale, d'où ce titre d'ailleurs du Wall Street Journal, le site pétrolier le plus polluant du monde tourne à plein régime. Et alors, le réchauffement climatique dans tout ça, et ce que je vous dis, je me base sur un article de Jean-Luc Porquet dans Le Canard Enchaîné, Jean-Luc Porquet nous dit bah, toutes les promesses de décarbonation, de zéro carbone, de neutralité carbone, de trajectoire vertueuse, et bien tout ça est passé à la trappe. Et M. Trudeau, qui est le premier ministre canadien, affirme que l'argent généré par l'industrie pétrolière canadienne servira à financer la transition énergétique, mais ça on l'entend chez tous les pétroliers ou autres globalement. Donc l'enfumage continue. Voilà, ça s'appelle la Tabasca. Si vous avez envie d'aller au Canada, allez voir la Tabasca tant qu'il y a encore quelques paysages indemnes.
Oui, bah je vais continuer avec une brève. Je voudrais vous parler de L214, l'association de défense des animaux, qui a obtenu la mise à l'arrêt de la cellule Déméter ce mardi 1er février. Alors la cellule Déméter, elle a été créée en 2019. C'est une cellule de gendarmerie qui était censée lutter contre les vols de matériel dans les exploitations, mais aussi contre les actes, je cite, de nature idéologique, qu'il s'agisse de simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole ou d'actions dures ayant des répercussions matérielles ou physiques. Le tout était matérialisé par une convention signée entre la Gendarmerie nationale et les deux syndicats agricoles majoritaires, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Alors, ce mardi 1er février, bien le tribunal a décidé d'arrêter, de mettre à l'arrêt cette cellule Déméter, puisque L214 assurait d'ailleurs que cette cellule portait atteinte au droit à la liberté d'expression. Le refus du ministère de mettre fin aux activités de la cellule présentait pour elle le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans un communiqué, L214 rappelle que la rapporteuse publique avait révélé plusieurs cas d'intimidation de militants écologistes ou animalistes par la gendarmerie et regrettait un déploiement de moyens démesurés. Alors, moyens démesurés, ça se traduisait par des auditions en répétition, des accès aux relevés téléphoniques, des bornages de téléphone, etc. Selon le tribunal administratif de Paris, il est enjoint au ministre de l'Intérieur de faire cesser les activités de la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole qui vise à la prévention et suivi d'actions de nature idéologique. Elle a un délai de 2 mois sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour. Le suivi de ces actions par la cellule est illégal car il s'agit de simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole, nous apprend le site Reporter.
Oui, voilà, Monsieur Julien Normandie, qui est, paraît-il, le ministre de l'Agriculture et le vice-président bis, certainement, de la FNSEA, puisque les deux structures sont extrêmement liées. Voilà, la cellule Déméter, on en a parlé quelques fois ici. On fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Personne n'a n'a dénigré les agriculteurs, mais les agriculteurs, ils font partie de notre vie. On leur a demandé pendant les 30 glorieuses de produire, de produire, de produire, à n'importe quel prix, surtout grâce à la chimie et donc au pétrole, hein, parce qu'il n'y a pas de chimie sans pétrole. Ben aujourd'hui, il faut les aider à travailler autrement. Et puis, il va falloir se dire que peut-être ce qu'ils produisent nous coûtera un peu plus cher, ce que personne n'est prêt à entendre. Alors moi, je voulais vous parler de quelque chose qui me gratte, mais ça, ce sera... Je suis en train de rédiger mon édito pour Esprit Occitanie, comme toujours, et je vous en parlerai plus longuement, mais par écrit, vous pourrez le lire. Par contre, là, je vais vous parler des JO de Pékin. Donc, on pourrait dire beaucoup de choses sur les JO de Pékin, mais nous sommes dans Arcagna, et les JO de Pékin dépendent entièrement de la neige artificielle. L'article que vous pourrez retrouver aussi sur l'excellente parution Novétique. Donc, la neige artificielle, ben, on en utilise de plus en plus. Évidemment, réchauffement climatique, dans nos montagnes, il y a de moins en moins de neige. Mais pour les Jeux de Pékin, qui vont débuter demain d'ailleurs, ce seront les premiers qui vont se passer dans une réputation, dans une région, pardon, réputée pour sa sécheresse hivernale. Donc, il fallait y penser. Voilà. Donc, la Chine, qui nous promet des jeux verts, mais nous promet beaucoup de choses, assure que l'impact environnemental sera limité. Et elle entend démontrer que son leadership climatique est parfait, alors qu'elle dépend encore très très largement du Japon. Donc, la géographe Carmen de Jong de l'Université de Strasbourg nous a dit organiser des JO dans cette région est une aberration, c'est même irresponsable. On pourrait les faire aussi sur la Lune ou sur Mars, ironise-t-elle. Bon, c'est effectivement, Pékin est une région extrêmement sèche en hiver, la neige y tombe très rarement, et c'est très rare qu'il y ait il en a eu, mais c'est très rare qu'elle reste et qu'elle dure et qu'elle s'accroche. Donc les montagnes du nord-ouest de la capitale chinoise où vont se dérouler les épreuves sont aujourd'hui, je vous le confirme, bien blanches, alors que normalement elles devraient être totalement brune en hiver. Donc ce JO d'hiver sont les premiers à dépendre entièrement de neige artificielle, entièrement. D'ailleurs, la Corée du Sud avait déjà ouvert la voie en 2018 puisqu'ils avaient répandu 90% de fausse poudre, 100 générateurs de neige et 300 canons à neige couleur jaune vif qui soufflent en permanence leurs jolis flocons sur les futures pistes pour préparer le terrain aux skieurs. Donc, coûte pour les ressources en eau, bien, on évalue ça globalement à 185 millions de litres pour l'ensemble des sites olympiques. C'est de la folie, c'est sans compter d'ailleurs sur l'impact à long terme que vont avoir ces JO, puisque Pékin souhaite également profiter des installations qui ont été créées pour l'occasion, pour inciter des millions de Chinois à se mettre au sport d'hiver, donc ce qui va forcément accroître la pression sur les ressources en eau, dans une région où la pénurie est l'une des plus importantes du pays, comprenne qui pourra. Voilà pour cette première salve, comme je les appelle, de brève. Avant de parler avec notre invité, peut-être pourrait-on faire une pause musicale. C'est la vôtre. Tiens, je vous laisse la présenter, Aude.
Merci. Oui, on va s'écouter Timber Timbre, un groupe de folk rock canadien originaire d'Ontario, avec le titre « We'll Find Out ».
Donc, ils ne sont pas dans la Tabasca.
Ils ne sont pas dans la Tabasca.
Do your actions mention your heart's intentions? We'll find out. We'll find out. Is your mind mistaken? Is your conscience not at ease? We'll find out. We'll find out. Strive to deny each kindred spirit in the room. We'll find out. We'll find out. And is your highest pleasure now the misfortune of fools? We'll find out. We'll find out. You hide nothing. Just believe it, we all see it. Thank you.
basement, you did wait, wondering what they would do. And you could not accept the fate of 3,000 bolts through you. And there is nothing you could say, only what you should have done. And you should have walked away. Instead, you're living on the run. Now it's coming off the sea, and it's moving through the trees. It is the wind before your hand, as it's coming down upon me. You had nothing, just believe it. We all see it.
Voilà, Timbre, comme on dit à Toulouse. Le choix de la pause musicale, le choix de ma partenaire Aude. Eh bien, nous en arrivons maintenant à notre invité, que l'on remercie de nous avoir rejoints. Je pense que vous aviez des activités aujourd'hui. Vous n'êtes pas toulousaine,
Tassani
Bonardo.
Non,
mais ça, il vous sera beaucoup pardonné quand même, puisque vous nous avez rejoints. Aude, présentez-nous cet invité que vous avez au surplus choisi vous-même.
Tout à fait, j'y arrive. Déjà, Jacques, saviez-vous qu'en France, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, le secteur des bâtiments représente 24% des émissions de gaz à effet de serre et 44% de la consommation finale d'énergie?
Oui, je sais, je ne vois pas trop comment on va s'en sortir, mais bon, peut-être que Tassani Bonardo va nous donner une solution.
L'objectif national de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050 nécessite donc d'engager la rénovation massive du parc des bâtiments. Alors, pour ce faire, un plan de rénovation énergétique de l'habitat, appelé PREH, a été lancé le 21 mars 2013. Il vise avant tout à lutter contre la précarité énergétique, informer et orienter les particuliers sur les possibilités de rénovation de leur logement, structurer la filière économique de la rénovation qui est fortement créatrice d'emplois. Pour en parler, nous accueillons donc aujourd'hui Tassani Bonardo. Bonjour.
Bonjour.
Tassani Bonardo, vous êtes doctorante en sociologie de l'environnement au Centre d'études, travail, organisation, pouvoir, CERTOP, de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Et dans votre thèse, vous vous intéressez à la place des pratiques d'auto-rénovation des maisons individuelles dans l'accélération de la transition énergétique.
Il va falloir nous dire ce que c'est, parce que l'auto-rénovation, enfin, c'est pas moi qui la pratiquerai, s'il faut bricoler, c'est pas mon truc.
On va justement en parler, mais justement, avant de parler d'auto-rénovation, je voudrais revenir un peu sur votre parcours, Tassani, puisque avant de devenir sociologue, vous avez été ingénieur, notamment spécialisé sur les questions de maîtrise et de performance énergétique du bâtiment. Et donc je me demandais comment on passe de l'aspect plutôt physique des matériaux à la sociologie.
Ah, c'est une bonne question. Pour faire rapide, effectivement, je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé en bureau d'études sur tout ce qui concerne la maîtrise de l'énergie.
Donc
dans
vous
le
savez
bâtiment.
De quoi vous parlez. Ce n'est
je
pas,
sais
ce
de
n'est
quoi
pas
je
une
parle.
Approche purement intellectuelle de sociologue.
Ça va.
Et j'étais passionnée par tout ça, mais j'étais vraiment dans la conception, avec beaucoup, beaucoup d'observations, de calculs, de logiciels pour faire les bâtiments les plus performants possibles, jusqu'à ce qu'un constructeur un jour me dise « Ok, je vois ce que vous me dites, mais concrètement, comment je le mets en place ce truc ?» Et du haut de mes 24 ans, je les regardais avec les yeux ronds en me disant « Bah ça, j'en sais rien du tout ». Voilà, donc j'ai décidé d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs, de voyager, j'ai fait des chantiers participatifs, j'ai découvert le concret du bâtiment.
Qu'est-ce que c'est qu'un chantier participatif ?
Alors, un chantier participatif,
c'est là où tout le monde travaille, c'est ça ?
C'est là où les gens travaillent bénévolement, souvent.
Ah même. Oui, oui.
C'est un chantier
c'est comme la radio, alors. C'est un chantier participatif, ici.
On peut dire ça, voilà. Chantier participatif, c'est un chantier où des propriétaires font des travaux chez eux et accueillent des bénévoles pour les aider à faire des travaux. En général, en ouais. échange du gîte et du couvert, souvent aussi en échange d'apprentissage technique. Voilà.
Et justement, avant de parler de chantier participatif, peut-être qu'on pourrait revenir sur cette notion d'auto-rénovation. Déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'auto-rénovation et ce qu'elle représente dans le champ plus large de la rénovation ?
Oui. Alors, l'auto-rénovation, ce que moi, en tout cas, je rentre dans le champ de l'auto-rénovation, c'est des chantiers de rénovation des logements qui sont faits en partie par le propriétaire. Rarement à 100%, mais au moins en partie. Alors, je parle de travaux, parce que la conception ou la maîtrise d'œuvre, c'est souvent les propriétaires qui le font. Mais là, il s'agit de mettre la main à la pâte et d'aller sur les chantiers et de faire son propre chantier. parfois avec des professionnels, souvent avec son réseau, avec des copains et parfois avec des bénévoles.
Quel est l'intérêt, t'as dit, Bonardo, de distinguer ceux qui s'occupent, se bricolent eux-mêmes, et pourquoi pas, d'ailleurs, certainement ils doivent le faire très bien, qui font leur auto, leur rénovation eux-mêmes, et ceux qui le font faire par une entreprise. Du moment que c'est fait, ce qui nous importe, c'est qu'on émette de moins en moins, et donc peu importe comment on le fait. Non.
C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le sujet m'intéresse?
Oui, pourquoi vous vous êtes intéressé particulièrement à l'auto-rénovation?
Eh bien, on va y venir. Alors, il y avait la question des volumes. L'auto-rénovation, c'est très dur de savoir combien de chantiers ça représente en France, puisque ça se passe dans la sphère privée. Donc, qui dit ça se passe dans la sphère privée? Il n'y a aucun moyen d'action, de contrôle, de savoir quelle qualité est faite. Personne ne sait exactement ce qui se passe.
On le sait quand c'est une entreprise, quand ce sont des professionnels qui effectuent le chantier,
on a des informations. En tout cas, ils sont formés, on sait combien de chantiers font chaque entreprise, et donc on a une information sur les volumes. Sur l'auto-rénovation, c'est plus compliqué. Mais dans une étude de l'ADEME qui date de 2018, donc qui était sur la rénovation énergétique en maison individuelle, ils évaluent que c'est près de 40% des chantiers.
Oui, ce qui est énorme. Mais qui est un peu logique aussi, surtout pendant le Covid, beaucoup de gens ont bricolé, s'y sont mis.
Mais 2018,
avant le Covid. Mais là, donc, votre chiffre est peut-être aujourd'hui plus élevé.
Probablement. Et alors, je vais revenir à l'autre question que vous me posiez. Pourquoi s'intéresser à l'auto-rénovation et plus qu'autre chose? Donc c'est ce que je disais, on ne sait pas comment ça se passe exactement l'auto-rénovation, et surtout, du coup, il n'y a aucune aide financière, aucune aide politique appliquée à l'auto-rénovation aujourd'hui. Toutes les aides sont conditionnées par le fait de faire intervenir un professionnel.
Parce que là, vous avez dit tout à l'heure sur les chantiers, ce sont des habits, c'était sympathique, ou des gens qui viennent, mais il y a peut-être du travail au noir aussi.
Alors, ça pourrait. Moi, j'en ai pas observé beaucoup. Il y en a, très certainement. La question est de se poser... ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que des particuliers qui font des travaux chez eux préfèrent faire intervenir quelqu'un au noir, sans assurance, sans décennale, sans garantie travaux?
On ne voit que le prix et on ne réfléchit pas plus avant.
Mais justement, alors, pourquoi on n'en entend pas plus parler de l'auto-rénovation?
C'est les avocats qui entendent parler après quand il va y avoir des problèmes.
Pourquoi on n'en entend pas plus parler? Alors, je pense que ça dépend des milieux dans lesquels on évolue. Personne ne parle d'auto-rénovation. Oui, moi, c'est le terme que j'utilise. Mais par contre, tout le monde bricole chez soi. Donc, en fait, je pense que si on cherche un peu en réfléchissant dans notre entourage, on connaît tous quelqu'un qui fait des travaux chez lui ou qui en fait.
Oui, tout à fait.
Après, je ne sais pas...
En fait, je pose cette question parce que vous disiez juste avant que finalement, il n'y avait pas vraiment de politique publique qui traitait de cette question-là. Et donc, je me demandais pourquoi justement, en fait, ça passait un peu... C'était un peu aveugle des politiques publiques.
Entre 40 et 50%, c'est quand même assez énorme.
C'est pour ça.
Alors, il y a plusieurs raisons, je pense, qui font qu'on en entend peu parler. Il y a déjà le fait que ça se passe dans la sphère privée. Donc, moi, c'est des choses qui m'ont été dites. Hein, en fait, on ne sait pas ce qui se passe, comment ça marche. Donc, c'est dur de s'engager là-dedans. Un peu, je pense que c'est un peu passé, mais il y a eu une période où c'était la politique de l'autruche. On fait comme si ça n'existait pas. Voilà. Et puis il y a des syndicats professionnels qui peuvent se sentir mis en danger par le fait que les gens fassent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des professions à défendre, des métiers à défendre, et une peur de perdre des clients, ce qui n'est pas ce que moi j'observe sur le terrain.
On peut peut-être aussi se poser la question de savoir si c'est fait dans les règles de l'art, autrement dit, si ça va être véritablement efficient.
Tout à fait. C'est au cœur de ma recherche.
Alors, qu'est-ce que vous avez constaté en grattant dans cette direction?
Alors, c'est très compliqué à dire parce que il faut d'abord poser la question, qu'est-ce que l'efficience? Qu'est-ce que la performance, en fait?
Enjeu question.
Voilà. Si on regarde ce que disent les textes ou ce qui est prôné dans le plan de rénovation énergétique de l'habitat, c'est d'atteindre des rénovations dites BBC, donc basse consommation, à très peu de consommation énergétique par mètre carré et par an. Mais est-ce que, en termes de performance réelle, si les gens réduisent la surface de leur habitat, c'est pas aussi performant? Ou est-ce que s'ils ont décidé de ne pas chauffer à 19 comme le calculent les logiciels, mais de chauffer à 17 et d'accepter qu'ils fassent 15 dans les chambres, mais ils ont un poêle chez eux et donc ils trouvent ça confortable, est-ce qu'on peut ne pas dire que c'est performant ? Donc c'est, en fait, toute la question du confort et de la performance peut être vue d'un point de vue normé et réglementaire, et donc on met un cadre pour essayer de donner des règles et ce qu'il faut faire pour aller vers la performance énergétique, ou essayer d'avoir une autre approche et de se dire, si on regarde de façon systémique, est-ce que le fait que les gens fassent eux-mêmes ne leur permet pas d'aller vers quelque chose qui répondra mieux à leurs besoins, à eux ?
S'ils chauffent moins ou s'ils réduisent la taille, ça s'appelle la sobriété. Et la sobriété, c'est ce vers quoi il va falloir tendre, malgré toutes les autres mesures que l'on mettra en place, on le sait aujourd'hui.
Moi, je me demande quand même s'il y a une différence entre rénovation énergétique et rénovation écologique, parce que j'ai l'impression qu'on l'utilise un petit peu et qu'il y a certainement un amalgame.
Alors, pour moi, ce sont deux choses différentes, oui. La rénovation énergétique, c'est le fait d'avoir un logement donc efficient énergétiquement, c'est-à-dire bien isolé, des fenêtres qui n'ont pas trop de déperdition, un système de chauffage efficace, etc. Ce qu'on appelle rénovation écologique, c'est plus sur les matériaux qui vont être mis en œuvre pour aller dans la rénovation, donc des matériaux écologiques.
Mais on peut combiner les deux.
On peut combiner les deux, tout à fait.
Là, c'est le top.
Mais les deux ne sont pas forcément ensemble.
Alors, est-ce qu'il y a différentes formes, justement, d'auto-rénovation ? Est-ce que ça prend plusieurs... des formes différentes, ou quand on parle d'auto-rénovation, il y a une définition un peu globale qui...
Alors, il y a différentes formes, il y a différents publics aussi, différentes personnes. Moi, ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, c'est que les personnes qui font de l'auto-rénovation, il y a plein de raisons qui poussent à faire soi-même, mais c'est quand même souvent une raison économique, hein, c'est le premier truc. Moi, ce que j'ai observé surtout, c'est des rénovations donc, de maisons individuelles et qui sont des rénovations complètes, c'est-à-dire des gens qui achètent et qui décident de rénover complètement le logement avant de s'y installer. Et c'est là qu'on peut le plus agir sur...
Donc ce n'est pas ceux qui sont déjà dans une maison qui vont se dire « Oh là là, ça nous coûte trop cher, on va travailler autrement, on va déjà isoler pour faire des économies d'énergie. »
Alors ça, c'est une autre forme d'auto-rénovation, ça existe aussi, j'en ai rencontré quelques-uns, mais moins. Une des limites de cette approche-là, c'est que souvent on fait de la rénovation par étapes, donc petite touche par petite touche, et si on n'a pas la vision globale dès le départ, on risque de faire des travaux qui... cumulés ne permettront pas d'atteindre la performance qu'on aurait eue en faisant tout ensemble.
Qu'est-ce que ça coûte de rénover, d'isoler complètement une maison ? Est-ce qu'il y en a des prix au mètre carré ?
Alors moi, j'en aurais pas à vous donner du tout. C'est tellement variable selon l'isolant qu'on utilise. Est-ce qu'on le fait soi-même ? Est-ce qu'on le fait faire ? Si on utilise du chanvre qui arrive du producteur à côté ou de la laine de bois qui a été produite en usine, etc. C'est pas du tout la même chose. Et puis, il y a eu ces dernières années l'isolation à 1 euro. À ce moment-là, ça coûte 1 euro. Donc, donner des prix, j'en serais bien incapable.
Et pourtant, ça, il va falloir, Aude, nous rappeler les volumes qui sont assez considérables, hein, puisque le rejet de CO2 par ces habitations mal isolées, la plupart en France doivent l'être. On parle d'habitations là, privées, et on pourrait aussi parler des bureaux et des administrations.
Tout à fait. Alors, il faut quand même savoir que dans les 40%, vous disiez 44%, les derniers chiffres, c'est plutôt 40% de consommation énergétique des bâtiments. Il y en a 29% qui sont attribués au logement. Donc c'est quand même une grosse part.
C'est conséquent.
C'est quand même une grosse part, voilà. Et dans le logement, j'ai regardé récemment les chiffres de l'INSEE. En 2020, 55% des logements privés sont des maisons individuelles, dont une bonne partie qui ont été construites avant 75. Je sais pas les volumes exacts.
Mais... Et est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du pourcentage de rénovation par rapport au chantier global, si je puis dire ? Parce qu'il va falloir tout rénover, idéalement.
Oui.
Et donc, est-ce qu'on peut se situer ? Est-ce que c'est de l'ordre 10%, 20%
Je n'ai pas du tout les chiffres en tête. Ce que je peux dire, c'est que les objectifs du PREH dont Aude parlait tout à l'heure sont de 500 000 rénovations par an, dont 380 000 pour le logement privé. Et que ça, les derniers rapports que j'ai lus d'études disent que c'est absolument pas atteint et qu'en plus, on n'est pas sur du BBC rénovation. On est sur des rénovations plus ponctuelles. Mais en pourcentage, je serais bien incapable de répondre à la question.
Donc d'une manière un peu globale, on a Est-ce qu'on a un moyen d'évaluer justement l'effet ou l'efficacité, de manière un peu globale, de ces actes d'auto-rénovation sur notre dépense énergétique ou est-ce que ce n'est pas forcément prévu ?
Alors moi, dans ma thèse, pour le moment, je ne sais pas comment faire parce qu'en fait, il se trouve que c'est des logements qui n'ont pas de diagnostic de performance énergétique avant ni après. Donc,
ça veut dire qu'il y a des gens
peut évaluer de façon sensible, mais chiffrer quelle est l'économie sur des bâtiments qui peut-être n'ont pas été occupés pendant 10 ans avant, c'est assez compliqué. C'est compliqué.
Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui, croyant bien faire, sont passés complètement à côté de
oui,
l'efficience.
Il y en a. J'en ai vu. Alors, c'est intéressant parce que vous m'amenez à un autre point de ma thèse qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est la coproduction des savoirs. Comment est-ce que les habitants, quand ils rénovent, vont chercher l'information, se renseigner auprès de professionnels, mais aussi auprès d'organismes institutionnels qui sont là pour faire du conseil aux particuliers. Et donc, comment ils arrivent à aller vers la performance, enfin, vers plus de performance.
Mais aujourd'hui, quand on a un souci, quand on veut savoir comment faire quelque chose, on tape sur son ordinateur, monsieur Internet vous le dit. Est-ce que c'est pas par là qu'on fait ?
Parce que alors, si vous allez voir un pro... Qu'est-ce que vous taperiez dans votre moteur de recherche ?
Alors moi, n'étant absolument pas bricoleur, je me suis jamais posé la question. Mais j'imagine, aujourd'hui, tout le monde va voir sur Internet, il y a toujours un tuto quelque part qui va te dire, tu le fais comme ceci, comme ça, bien ou mal, j'en sais rien. Parce que si vous allez demander à un professionnel comment il faut faire et que vous le fassiez vous-même, j'ai peur quand même que les professionnels, je veux bien qu'ils soient généreux, qu'ils soient altruistes, mais quand même.
Alors, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de professionnels qui se sont rassemblés, qui ont créé un syndicat pour faire reconnaître l'accompagnement à l'autoproduction comme un métier. Et qui, du coup, propose des prestations
donc
d'accompagnement
sur chantier. Donc,
ils le facturent.
Donc, on est plus totalement dans le travail individuel, personnel
Pour être complètement honnête, je pense que sur 100 chantiers d'auto-rénovation, s'il y en a un qui est à 100% sans professionnel, c'est bien le maximum.
Oui, donc, d'accord.
Voilà.
Mmh. Oui, c'est un petit peu d'ailleurs l'idée qu'on a, c'est-à-dire qu'on a échangé un petit peu justement en préparant l'émission avec Tassadit sur cette question-là, c'est que en fait, on a tous l'impression de, quand on rénove, de faire tout seul, mais on demande toujours à un ami... qui est compétent en électricité ou sur
oui,
un autre
comme
domaine.
Oui, comme le disait Tassadi tout à l'heure, on fait venir des gens extérieurs mais qui ont de la compétence et on fait des échanges de services.
Alors, ce n'est pas ça que je disais sur les chantiers participatifs. Les chantiers participatifs, on fait venir des bénévoles qui ne sont pas nécessairement compétents. Si on veut faire venir des personnes compétentes, là, on rentre dans une prestation professionnelle. Mais
quel est l'intérêt pour un bénévole qui n'est pas compétent d'aller sur un chantier qu'il ne sait pas réaliser ?
Apprendre justement.
Alors si vous avez la technicité pour faire l'opération, pourquoi vous allez apprendre à des gens qui ne sont rien pour vous ? Comment il faut faire ?
Alors là on rentre dans peut-être plus la rénovation écologique, c'est qu'il y a des techniques qui demandent pas beaucoup de technicité et beaucoup de main d'œuvre. Et du coup, pour faire une isolation en paille, c'est bien d'avoir plein de bras pour venir poser la paille. On forme les gens, on leur explique comment faire, on les nourrit, on les loge et... le chantier sera peut-être fait en 15 jours ou 3 semaines au lieu de 6 mois tout seul.
Et du coup, ce partage de connaissances ou cette production de savoir, est-ce qu'elle s'organise d'une manière particulière quand vous observez justement les chantiers sur votre terrain ? Est-ce qu'il y a des façons d'interagir particulières qui ressortent un peu ou il n'y a pas forcément de tendance et se fait juste pour la démonstration par exemple ?
Je pense que ça dépend beaucoup des profils, des personnes qui accueillent. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise à transmettre et qui ne vont d'ailleurs pas accueillir. J'ai observé plusieurs chantiers que moi j'ai trouvé assez intéressants où ils ont d'abord fait appel à des amis et à la famille pour tester des choses. Et une fois qu'ils maîtrisaient suffisamment la technique, là ils ont fait appel à des bénévoles extérieurs en se disant « je maîtrise suffisamment pour donner quelque chose ». Avec les amis et la famille, on peut se permettre d'être un peu plus... un peu moins dans les clous, on va dire.
D'accord.
Et il y a des gens qui embauchent des professionnels pour encadrer ces chantiers-là, qui se disent, je vais faire venir 5 personnes et je fais venir un professionnel qui va nous expliquer comment ça fonctionne.
Et du coup, est-ce que vous arrivez à dégager, je ne sais pas, je pose vraiment la question, des profils types de personnes qui auraient plutôt tendance à vouloir être encadrées par des artisans ou des professionnels ou d'autres qui préféraient plutôt rester dans la sphère intime.
Alors j'y travaille, c'est pas encore bien défini, mais j'observe quand même que les gens qui font de l'auto-rénovation depuis longtemps sont quand même... Enfin, j'ai deux profils principaux de gens qui sont autonomes. C'est soit des gens qui ont plutôt un bagage culturel ou même fait pas mal d'études et qui n'ont pas peur d'apprendre et qui du coup vont aller se renseigner beaucoup avant de commencer, ou des gens qui sont très bricoleurs et qui ont un réseau de gens dans le bâtiment ou qui savent à la fois bricoler, donc qui n'ont pas peur de se lancer et qui ont un réseau à qui faire appel. Voilà, ça c'est les gens qui le font déjà, et dans ceux qui sont ni un profil ni l'autre, ils vont plus aller chercher la compétence à l'extérieur, chercher vers les institutions ou les professionnels des personnes pour les encadrer dans ce qu'ils font. Okay.
Ces gens qui font de l'autorénovation, on n'arrive pas à chiffrer, donc on sait à peu près quel est le parc global, très globalement, qu'il faudrait rénover. Certains silences, on vient de le voir, peut-être maladroitement, peut-être avec efficacité. Ça va aller jusqu'où, cette affaire, jusqu'à ce qu'on encadre les gens et jusqu'à ce qu'on leur dise, ben écoutez, là, vraiment, on ne peut plus reculer, il faut y passer. Est-ce que les gens ont conscience que ce qu'ils font, alors on disait tout à l'heure, un des moteurs de ce lancement de chantier, c'est le coût énergétique, mais est-ce qu'ils ont conscience de la finalité de tout cela? Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils font ça aussi pour protéger la planète et pour éviter de relâcher un peu trop de CO2 dans l'atmosphère? Est-ce que cette prise de conscience existe? Parce que
c'est très variable d'une personne à l'autre. Je ne pourrais pas faire de généralité là-dessus.
Qu'est-ce que vous constatez? Parce que c'est le coût de l'énergie, compris.
Ce que je constate, c'est que l'efficacité énergétique et la rénovation énergétique, c'est une problématique de l'État. Ce n'est pas une problématique individuelle. Parce qu'à l'échelle individuelle, les gens, ils veulent se loger. Ils veulent avoir un logement décent, ils veulent être confortables chez eux. Et être confortables, quelquefois, eh ben, avoir une cuisine qui leur convient est plus importante que d'avoir une isolation de 25 cm qui va être hyper performante.
Donc ça veut dire que la prise de conscience globale n'existe pas?
Non, c'est pas ça que je dis, parce que vraiment c'est variable. Il y a des chantiers sur lesquels c'est le cœur, ils font de la rénovation parce qu'ils veulent la maison la plus performante possible. Il y en a d'autres qui veulent ça, mais... Il y a des facteurs de dégradation qui arrivent, qui font que financièrement, ils ne peuvent pas. En temps, ils sont bloqués. Pour peu qu'ils aient besoin d'avoir un logement, le temps des travaux à côté, et ben en fait, le temps va être un facteur limitant. Donc, en fait, il y a plein de petits facteurs de choses comme ça qui rentrent dans les paramètres et qui font que, bah, quelquefois, l'idée initiale était vraiment une rénovation énergétique ultra performante. Et puis, au final, c'est une rénovation énergétique correcte, mais qui n'atteint pas le facteur 4.
Cette auto-rénovation, vous qui l'étudiez, est-ce qu'on peut la situer géographiquement? Ou pour poser la question autrement, est-ce que c'est plus des gens qui sont dans les banlieues, c'est plus sur des territoires beaucoup plus ruraux ou dans des centres-villes?
Alors, comme je fais une étude qualitative, je n'ai pas vraiment observé ça.
Parce qu'on a quand même beaucoup poussé les gens à aller s'installer à l'extérieur un peu des villes. Vous aurez votre pavillon, vous serez... Bon, le rêve hein, de beaucoup de gens qui sont devenus, pour beaucoup, des gilets jaunes après. On a vu la levée de boucliers quand on a augmenté les taxes sur l'essence ou le prix de l'essence plus globalement. Si maintenant on leur dit, en plus de ça, vous allez consacrer pas mal d'argent, parce que ça coûte cher, à la rénovation complète de votre logement et à la mise un peu aux normes environnementales, vous croyez que ça va passer?
Y a des acteurs qui travaillent là-dessus, justement, en disant qu'il faut que la rénovation énergétique ne soit pas financée a priori par les particuliers, mais par l'État, et que ça soit sur les charges et sur les années que ça se...
Et l'État, il va trouver l'argent où, globalement? Parce que là, on vient de passer 140 milliards... avec le quoi qu'il en coûte de M. Macron, et ce n'est pas du tout une critique, hein, je comprends sa démarche, on va trouver l'argent. Alors je sais bien qu'on peut trouver de l'argent
partout. Alors ce n'est pas du tout le sujet de ma thèse, du coup je ne saurais pas du tout répondre à cette question.
C'est une question que peut-être vous vous posez, même si ce n'est pas le sujet de votre thèse, vous devez réfléchir à ça, ou peut-être en parler ou avec des confrères, ou en parler avec des gens qui justement sont dans l'auto-rénovation.
Moi je travaille sur l'économie du chantier, c'est-à-dire quelle économie les gens font ou ont l'impression de faire en faisant les travaux eux-mêmes. Il y en a qui me disent, mais moi j'ai fait aucune économie, j'ai dépassé mon budget dans tous les cas.
Quand vous dites on l'impression, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à quantifier le résultat de leurs travaux.
Bah, c'est très compliqué de dire qu'est-ce que ça vaut. Le temps, est-ce que je compte le temps que j'ai passé
à faire ce
chantier ?
Bien sûr.
Oui, mais mon temps en n'étant pas formé à faire quelque chose n'a pas la même valeur que le temps d'un professionnel qui est formé à faire la même chose. C'est extrêmement compliqué à chiffrer. Et puis, en fait, souvent, la problématique de base, c'est que l'argent n'est pas là. Et donc, on ne chiffre pas ces informations-là.
Donc, ça veut dire qu'on est dans le grand flou ? Et qu'il n'y a pas de politique, pas de système mis en place, pas de politique systémique pour la rénovation de toutes ces résidences.
Voilà, vous venez de superbement expliquer pourquoi je fais une thèse sur le sujet.
Alors on va attendre la fin de la thèse pour tout savoir, hein. Et à ce moment-là, vous reviendrez nous voir pour nous livrer vos conclusions, puisque pour l'instant vous êtes peut-être plus dans l'étude que dans la conclusion.
Voilà, je suis encore dans l'étude, et puis je pense que dans les questions que vous me posez, il y en a où j'aurai pas de réponse, parce que vous posez des questions qui sont trop complexes pour être pour que j'arrive à y répondre seule. Et je ne travaille pas particulièrement sur les politiques publiques, par exemple. J'observe les aides à la rénovation, j'observe comment ça impacte l'auto-rénovation. Mais ce n'est pas le cœur de mon sujet et je ne maîtrise pas tous ces aspects-là. Donc
je ne sais pas qui c'est qui les maîtrise, ni même si... Oui, s'il y a quelqu'un qui a une vision d'ensemble là-dessus, ou c'est un peu des politiques, un peu au jour le jour.
Oui, c'est le sujet, je pense.
C'est l'impression un peu que ça donne, quoi. C'est le grand foutoir, on sait qu'il va falloir y passer, mais le politique doit être quand même très très gêné, les politiques publiques, pour dire aux gens, surtout avec ce qu'ils viennent de traverser, bon, maintenant que vous avez traversé ça, on va passer à un autre sujet, et on va vous remettre une charge sur la tête, une charge financière aussi. C'est vraiment pas le moment. Or, c'est maintenant qu'il faudrait le faire. On n'a plus beaucoup de temps aujourd'hui pour y procéder.
Il y a certainement une injonction. Puis après, ce qu'on voit et ce qu'on voit à travers les travaux de Tassadit aussi, c'est qu'il y a des gens qui s'organisent avant même que justement il y ait cette injonction. Donc, moi, j'essaierai d'être un peu moins pessimiste, si tu veux bien, Jacques.
Je voudrais bien être optimiste, mais j'ai un peu de mal à comprendre comment tout ça va pouvoir s'organiser, se faire de façon efficace et dans des délais brefs. Ça va être extrêmement compliqué, mais je suis toujours prêt à voir le miracle. Je suis un homme de foi, je n'attends que de voir le miracle. On fait une deuxième pause musicale, c'est moi qui l'ai choisi. On va écouter Alison Krauss.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to as I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down,
Voilà, Alison Krauss, le débat continue hors micro parce qu'effectivement le sujet est extrêmement vaste, complexe, multiforme, donc c'est très très compliqué. On va revenir à nos salves, à la deuxième salve de nouvelles. Alors ce ne sont pas toujours de bonnes nouvelles, mais je vous promets que Siana, on vous les donnera.
Tout à fait. Mais je vais d'ailleurs enchaîner avec une autre mauvaise nouvelle. Savez-vous que la pollution chimique a été franchie dans l'indifférence la plus totale, c'est-à-dire que
le seuil
la
acceptable,
cinquième, voilà, c'est ça, ouais, la cinquième limite planétaire a été franchie dans l'indifférence la plus totale. Effectivement, hein, pendant que Jean-Michel Blanquer faisait polémique avec ses vacances à Ibiza, un tout autre scandale bien plus grave s'est déroulé sans pour autant faire autant de vagues.
C'est bien ce qui est inquiétant, c'est qu'on a créé un problème de toute pièce sur cet homme que je ne connais pas particulièrement, mais on ne parle pas des choses importantes.
Voilà, problème,
c'est la maladie de notre société.
C'est ça, c'est le problème, c'est que du coup, cette information est un peu passée à l'as. Alors, il y a des scientifiques du Stockholm Resilience Center, le SRC, qui ont assuré dans une étude parue le 18 janvier, dans la revue scientifique Environmental Science and Technology, que la limite introduction d'entités nouvelles dans la biosphère avait été franchie. Alors, c'est quoi cette histoire de limite planétaire? En fait, en 2019, il y a un groupe de scientifiques internationaux qui a créé un concept permettant de mesurer l'impact de différents facteurs sur la stabilité du système Terre. Celui-ci, en fait, il est représenté par l'image assez simple d'un camembert divisé en 9 catégories. Parmi elles, le réchauffement climatique, la réduction de l'ozone, l'utilisation de l'eau douce ou encore le taux d'extinction. Les experts se sont appliqués pour chacun à mesurer jusqu'à quel niveau l'humanité peut continuer à se développer et à prospérer. Et l'une de ces catégories a franchi, selon leurs calculs, la frontière au-delà de laquelle cet équilibre n'est plus possible. Il s'agit de la limite, donc introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, que l'on peut aussi appeler pollution chimique. Et pourquoi cette limite, elle est franchie aujourd'hui? L'étude du SRC montre que la production de cette nouvelle pollution a été multipliée par 50 en 70 ans et qu'elle va encore tripler d'ici à 2050. Avec une telle production de masse, finalement, la courbe des substances qui finissent dans l'environnement ne peut être qu'exponentielle. On est à des densités qui dépassent le million de déchets par kilomètre carré sur certaines zones au fond de la Méditerranée, et on est à près de 24 milliards de particules flottantes à la surface des océans. Voilà, encore des chiffres qui sont tout aussi déprimants.
Un peu peur, voilà, toujours dans la même cas d'illustration du réchauffement climatique, il y a quelque chose qui est de plus en plus de choses visibles, mais là on en a une qui est évidente au Groenland. C'est la calotte glaciaire du Groenland qui est absolument colossale, mais qui a perdu 4 700 milliards de tonnes et en seulement 20 ans. Ce qui a entraîné une hausse des océans de 1,2 cm. Vous allez me dire 1,2, c'est pas beaucoup aussi. Pour certains, n'oublions pas le nombre de gens qui vivent en bordure de mer, hein, sur les côtes, c'est considérable. Et certaines îles, on le sait, sont déjà menacées de disparition. Certaines villes vont aussi disparaître. On peut parler de Miami, de Venise ou d'autres. Hein. Donc c'est des données publiées cette semaine par le Polar Portal. Alors le Polar Portal, c'est pas un polar avec des meurtres et des policiers, non, c'est l'organisation qui chapeaute les instituts danois sur l'Arctique, et ce volume de glace fondue est particulièrement important sur les côtes du territoire autonome danois, selon les observations qui ont été faites, et le Polar Portal que j'évoquais à l'instant nous dit: les données montrent que la majorité de la perte de glace se produit sur les bords de la calotte glaciaire, où des observations indépendantes montrent que la glace se rétrécit, que les fronts glaciaires reculent dans les fjords et à terre, et que la fonte est plus forte à la surface de la glace. Donc c'est quand même extrêmement alarmant que ce réchauffement climatique et ses conséquences dans l'Arctique. Il est quand même survenu ces dernières décennies à un rythme 3 fois, voire 4 fois supérieur au reste de la planète. Ça s'accélère de plus en plus. La NASA, fin janvier, a publié une étude qui nous dit que la fonte accélérée près des côtes s'explique par le réchauffement des eaux de l'océan Arctique, donc réchauffement, c'est autre chose, qui contribue au moins autant que l'air à la surface au déclin de la calotte groenlandaise. La fonte de la glace au Groenland est le principal facteur aujourd'hui de la montée des océans sur Terre, et les glaciers du territoire reculent désormais 6 à 7 fois plus vite qu'il y a 25 ans, selon la NASA, l'agence américaine. Et selon les climatologues, la calotte glaciaire du Groenland contient au total de quoi faire monter les océans de plus de 7 mètres. 7 mètres, hein, c'est considérable. Et l'Arctique de près de, tenez-vous bien, 50 mètres, même si les processus de fond sont des phénomènes extrêmement lents. Mais pour l'instant, ça avance. Donc on est dans une bataille contre la montre. La banquise arctique, dont la fonte n'a pas, en revanche, d'effet sur le niveau des océans aussi considérablement reculé, puisqu'ils ont perdu près de 13% de sa surface tous les 10 ans. Voilà, c'est... information issue du Monde du 1er février 2021, je vous renvoie à l'article intégral. C'est quand même un baromètre ou un thermomètre, je ne sais pas comment il faut le qualifier, extrêmement parlant et qui doit poser question.
Les pesticides tueurs d'abeilles reviennent, puisque l'utilisation de semences de betteraves sucrières traitées avec des néonicotinoïdes a été autorisée par le gouvernement.
Contrairement aux promesses de M. Macron. Voilà. Mais enfin bon, ce n'est pas une des seules promesses qu'il a bafouées, comme tous les politiques d'ailleurs.
Non, et justement, ça devrait peut-être durer, puisque c'est une nouvelle qui a été, un arrêté qui a été publié le 1er février par le journal officiel. Bon, il y a quand même une volonté du gouvernement qui a lancé un plan national en 2020, un plan national de recherche et d'innovation qui a un budget assez conséquent de 7 millions d'euros pour trouver des solutions de remplacement qui sont en cours d'ailleurs d'expérimentation et qui permettraient de se passer définitivement des néonicotinoïdes. Mais le gouvernement laisse déjà entendre qu'une nouvelle dérogation pourrait être accordée pour la campagne 2023 en l'absence de résultats probants d'ici là.
Merci les lobbying, merci la FNSEA, c'est assez classique. Bien, l'heure file à grande vitesse. Nous arrivons à notre dernière rubrique, Aude. C'est le conseil culturel, entre guillemets culturel, bien sûr. Alors pour moi, ce sera un livre. Ça s'appelle « Enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète ». C'est un journaliste, Michael Correia, aux éditions La Découverte, 192 pages, hein, ça vient de sortir. Alors vous allez me dire, ben, de quoi parle ce garçon, d'Amazon, de Total ou de BP ? Non, non, aucune de ces entreprises ne se situe dans le trio de tête, curieusement. Les trois entreprises les plus climaticides au monde sont beaucoup moins connues du grand public, et même de nous-mêmes d'ailleurs. La première, c'est le pétrolier Saudi Aramco. La deuxième, c'est le géant chinois du charbon China Energy. Et également, chez les Russes, la compagnie gazière russe Gazprom, elle, on en parle un peu plus souvent. Et l'auteur, Michael Correia, dévoile dans son nouvel ouvrage toutes les stratégies qui sont bien huilées, bien rodées, pour produire toujours plus d'énergie fossile, mettant l'humanité tout entière en danger. Et elles trois, si ces trois entreprises étaient un pays, elles incarneraient la troisième nation la plus émettrice de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Donc on peut retenir leurs noms, Saudi Aramco, China Energy, Gazprom, pétrole, charbon, gaz, la sinistre trinité des énergies fossiles, comme le résume l'auteur Michael Correia dans ce livre. Il a mené une enquête sur les stratégies employées par ces entreprises. Alors on y trouve des choses fabuleuses, corruption, néocolonialisme, lobbying, greenwashing, mensonges, soft power pour ces trois entreprises qui sont bien déterminées apparemment à perpétuer l'addiction au carbone à rebours de l'urgence climatique et des rapports du GIEC et de l'accord de Paris. Allez, Aude, une dernière.
Bah oui, je vais vous parler de BD. Moi, j'avais envie de vous parler de La recomposition des mondes d'Alessandro Pignocchi aux éditions Seuil, qui a été paru en 2019. Alessandro Pignocchi, c'est un ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie qui s'est lancé dans la BD d'abord avec son blog Puntish. Il a écrit plusieurs romans. Et dans cette BD, il se pose la question de ce qui se trame exactement sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Notre anthropologue et dessinateur mène l'enquête. Il se demande s'il s'agit d'un kyste peuplé de hippies violents, trop drogués pour comprendre qu'il faut partir puisque le projet d'aéroport est abandonné, ou plutôt il s'agirait de l'avant-poste en Occident d'un nouveau rapport au monde affranchi de la distinction entre nature et culture. L'enquête, elle emprunte des chemins prévisibles sur ce bocage qui, d'emblée, nous absorbe, nous transforme et recompose les liens que nous entretenons avec les plantes, les animaux et le territoire.
Donc une BD, donc je rappelle le titre, La recomposition des mondes d'Alessandro Pignocchi aux éditions Seuil. Et puis pour mon livre, il s'agissait de l'enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète, Michael Correa, édition La Découverte. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci Tassadine Bonardo d'être venu nous voir. Donc on attend que vous ayez fini la thèse pour revenir nous exposer vos conclusions.
Voilà, on pourra faire ça.
Il y en a pour longtemps ?
Ah, c'est pas la question à poser, Jacques.
Ah, moi, j'aime bien savoir, parce que les thésards, souvent, ils restent, ils aiment bien. Hein, la thèse, on a du mal à en sortir, elle a terminé.
Oh, moi, je tiens pas à la faire durer. Hein, arriver à des premiers résultats et continuer la recherche après, pourquoi pas ?
Bon, bien écoutez, ça, vous l'avez compris, nous reverrons Tassadine Bonardo bientôt. Enfin, vous ne la verrez pas, mais vous l'entendrez au micro d'Esprit Occitanie. C'était Arcania, une émission d'Aude Sturma et de Jacques Lavergne. Aux manettes, nous avions Tiphaine Lemel que nous remercions, et vous pourrez retrouver le podcast de cette émission, et comme tous les autres podcasts d'ailleurs, sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Arcania. On ne lâche rien. Belle journée à toutes et à tous.